Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les chemins de la philosophie. Il est 10h du matin, ce mardi matin, pour ceux d'entre vous qui nous écoutez en direct. Sachez qu'au moment où nous enregistrons cette émission, il est 21h50. Nous sommes à l'UNESCO, c'est le début, la continuité de la journée, surtout de la nuit de la philosophie à laquelle nous participons jusqu'à 2h du matin. Tout à l'heure, nous avons enregistré une émission sur la philosophie en Inde, que vous avez pu écouter hier. Demain, ce sera sur la philosophie en Amérique latine. Jeudi, sur la philosophie en Méditerranée. Ça nous amènera à minuit et demi ce soir. Le public est ici nombreux à cette heure-ci, à croire qu'il y a un intérêt suscité pour cette émission et la philosophie. Merci à vous d'être si nombreux à ce moment-là. L'émission du jour porte sur un thème, une question. Y a-t-il une philosophie africaine et comment philosophe-t-on en Afrique aujourd'hui? Pour répondre à cette question, je suis accompagnée de trois invités que je suis très heureuse d'accueillir. Yacouba Konaté, bonjour à vous.
Bonjour madame.
Jean-Godefroy Bilima, bonjour à vous.
Bonjour.
Nadia Yalakisoukidi, bonjour à vous.
Bonjour.
Et je suis également accompagnée de Georges Kless, qui est là pour vous en chair et en os et qui va vous lire sans plus attendre un texte de Paulin Outunji sur la philosophie africaine.
J'appelle philosophie africaine un ensemble de textes. L'ensemble, précisément, des textes écrits par des Africains et qualifiés par leurs auteurs eux-mêmes de philosophiques. Cette définition n'entraîne pas, remarquons-le, n'entraîne aucune pétition de principe. Le sens du qualificatif philosophique n'entre pas ici, en effet, en ligne de compte, encore moins le bien fondé de cette qualification. Seul importe le fait de la qualification lui-même, le recours délibéré au mot « philosophie », quel que soit par ailleurs le sens de ce mot. Seul nous importera, en d'autres termes, l'intention philosophique des auteurs, non le degré de sa réalisation effective. La philosophie africaine est donc pour nous une certaine littérature. Cette littérature existe, c'est indiscutable. Elle prend corps dans une bibliographie qui ne cesse de s'enrichir depuis bientôt 30 ans. Circonscrire cette littérature, en dégager les termes majeurs, montrer quelle en a été jusqu'ici la problématique de fait, et rendre problématique cette problématique elle-même, tel est le propos limité de ces quelques remarques. Elles auront atteint leur but si, d'aventure, nous parvenions à convaincre nos lecteurs africains que la philosophie africaine n'est pas où nous l'avions longtemps cherchée, dans quelques recoins mystérieux de notre âme supposée immuable, telle une vision du monde collective et inconsciente que l'analyse aurait à restituer, mais que notre philosophie réside pour l'essentiel dans cette analyse même, dans le discours laborieux par lequel nous tentions jusqu'ici de nous définir. Discours dont nous devons alors reconnaître le caractère idéologique, et qu'il ne nous restera plus qu'à libérer pour en faire un discours théorique indissolublement philosophique et scientifique.
Yacouba Konaté, vous êtes philosophe, vous enseignez la philosophie à l'université d'Abidjan, Cocody, vous êtes aussi critique d'art. Êtes-vous d'accord avec Paulin Outunji pour définir la philosophie africaine comme une littérature?
Je n'ose pas dire que je ne suis pas d'accord avec Paulin qui a fonctionné un peu comme un maître pour nous, mais je voudrais dire que c'est une prise de position qui a fait l'effet d'une bombe, en ce sens que ça a désamorcé, ça a même détruit ses adversaires, mais en même temps ça a laissé beaucoup de terre brûlée. Et si on lisait le texte plus loin, on verrait qu'il désigne de manière plus précise ses adversaires sous le vocable d'ethnophilosophie. Par ethnophilosophie, il entend tous les auteurs qui, au lieu d'étudier la philosophie de Sartre, de Bergson, etc., ou d'Adorno, étudient la philosophie Bambara, la philosophie Akan, etc. Donc cette prise de position a marqué un temps d'arrêt et ça a cassé le lien entre ce qu'on pourrait appeler la philosophie que moi j'appelle la philosophie des philosophieurs, C'est-à-dire ceux qui, dans nos pays, étudient Kant, répètent Kant, vraiment ceux qui sont dans des positions de phonographe, pour parler comme Alain, et ceux qui étaient dans une sorte de recherche de philosophie appliquée et qui pensaient que notre rôle, notre responsabilité, c'était d'entrer en dialogue avec les cultures du terroir. J'ajouterais juste une dernière chose. Cette proposition n'a pas pris en compte aussi la notion de la textualité. Qu'est-ce qu'un texte ? Évidemment, on dit littérature, et ça ne fait pas le lien non plus avec ce qui s'est passé en histoire à l'époque, parce que toute la méthodologie en histoire était basée sur ce qu'on appelle les traditions orales. Donc, il y a une littérature orale également. Moi-même, je viens de finir un livre sur un conteur. Bon, bref, ce que je voudrais dire, c'est que si on étudie, si on prend le terme du texte hein, dans sa version française, texte vient de textere, d'après ce que m'ont dit mes maîtres, textere, ça veut dire tissu. Et c'est un terme qui est intéressant parce que dans les traditions africaines et dans plusieurs cultures ivoiriennes, tisser, c'est le terme qu'on emploie pour créer. On ne dit pas Dieu a créé le monde, on dit Dieu a tissé le monde. Le monde, c'est un tissu. Et comme tel, c'est du texte, et les Dogons disent que parler, c'est tisser des bandes de silence et de parole, des bandes de blanc et de noir. Et donc, de ce point de vue, je pense que c'est une phrase qui a marqué un tournant dans le champ de la réflexion philosophique, et maintenant, je pense qu'on est en train de s'en remettre, et aujourd'hui, on étudie sans mauvaise conscience, les textes d'Amadou Ampateba, on peut réétudier à nouveau les traditions, on exhume aussi quelques conteurs, etc., etc.
Jean-Godefroy Bidima, vous êtes philosophe, professeur titulaire de la chaire Yvonne Arnoux, département de français et d'italien de l'université Tulane à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Je précise, je ne l'avais pas fait, que Paulin Utunji, né en 1942, était un philosophe et homme politique originaire du Bénin, qui a eu pour directeur de thèse Paul Ricoeur, et qui écrit ce texte dans un ouvrage intitulé « Sur la philosophie africaine, critique de l'ethnophilosophie », paru en 1976. Souscrivez-vous à cette thèse, vous, Jean-Godefroy Bidima, d'une philosophie africaine comme littérature ?
Alors, je devrais d'abord préciser une chose. C'est que, sous ces latitudes, quand on pose encore la question de l'existence ou non de la philosophie africaine, aux États-Unis, on ne se pose plus cette question, parce que cette question paraît elle-même choquante. Tant qu'il y a des êtres humains capables de produire des signes, capables d'inventer un langage, capables, n'est-ce pas, d'inventer des systèmes normatifs, il y a absolument interrogation sur l'expérience. Et c'est cette interrogation sur l'expérience qu'est la philosophie. Donc, poser même la question, est-ce qu'il existe ou non une philosophie africaine, serait quelque chose de véritablement choquant.
Ce n'est pas la question, hein, vous êtes d'accord?
Non. C'est un préalable. Donc, je préfère, moi, répondre à Paulin Utunji en disant que je ne vais pas me situer sur le plan de la définition de ce que serait une philosophie dite africaine. Je vais plutôt me situer sur le champ de sa profération. Comment est-ce que les Africains, aujourd'hui, essaient de résoudre les problèmes liés à la transcendance, liés au rapport à l'art, liés aux divers contrats sociaux qui nous lient, liés à leur espérance? C'est ça, le procès de profération, pas la définition. Revenons sur Utunji. Utunji est d'une génération qui a connu l'école coloniale, moi non. Ce qui fait que le type de questionnement qu'il a, je veux dire, dans son sac philosophique, ça n'intéresse pas les gens de ma génération. Konaté l'a bien dit. Le texte, ce n'est pas uniquement un texte écrit.
Konaté, c'est votre voisin, hein, Yacouba Konaté. Yacouba Tout le monde ne le connaît pas encore mondialement, donc je précise.
Donc, Konaté l'a bien dit, il n'y a pas. Le texte n'est pas uniquement un texte écrit. Deuxièmement, Utunji a, donc, ce que Konaté a aussi dit, a visé dans sa définition ce qu'il a appelé les ethnophilosophes, et il n'était pas d'ailleurs le seul. Il était avec Toa, avec un tout petit peu Ouédu aussi. Donc, alors, qu'est-ce qu'il entendait par ethnophilosophe, comme Konaté l'a dit? C'est le fait de concevoir une philosophie africaine anonyme, une grande sagesse africaine. Donc, Utunji s'élevait contre ça pour dire que la philosophie est d'abord une aventure individuelle et qu'une société ne peut pas être formée ensemble, une société de philosophes. Donc, c'est ça. Sa visée était donc de critiquer cette philosophie anonyme. Mais par là, il a viré vers une espèce d'idéologie, parce que des années après, 30 ans après, le vocable d'ethnophilosophe a servi aux philosophes africains de produire l'exclusion des autres philosophes.
Qu'est-ce que ça veut dire ethnophilosophie ?
Ethnophilosophie, c'est que on a prétendu, d'après ce que Ntonji et Towa ont dit, ils ont prétendu que, bon, alors je devrais d'abord faire l'histoire. En 1944-1945, un missionnaire belge du nom de Placide Tempels était en mission au Congo belge. Et il a écrit un ouvrage magnifique, La philosophie bantoue. Alors il dit, voilà, je vais vous présenter ce que c'est que la philosophie bantoue. Leur manière de vivre, de concevoir la mort, le mythe, la religion. Voilà, je vous donne donc l'âme bantoue qui est une âme fondamentalement vitaliste. Alors, Ntonji a donc réagi, Towa aussi, et il n'était pas les seuls, en disant que en présentant cette philosophie anonyme des bantous, il n'était pas en train de faire de la philosophie, mais une espèce de mauvaise ethnologie. Parce qu'il prétendait que la philosophie peut être, le concept de philosophie peut être étendu à l'ensemble, n'est-ce pas, des membres d'une société. Alors que les philosophes, c'est des gens particuliers qui posent des questions particulières. Et que dans la définition de Tempels, d'après Ntonji et Towa, il y avait une confusion entre le mythe et qui relève d'un autre type de discours, la religion et la philosophie. Ntonji prétendait donc à ce moment-là, et Towa, il prétendait à ce moment-là faire la distinction de ce qu'est la philosophie, un discours critique sur les mythes, sur les religions. D'où le vocable d'ethnophilosophie. Alors, la philosophie, c'est pas quelque chose d'éthéré. La philosophie est garantie par des acteurs, des appareils, les appareils universitaires. Alors, ce concept d'ethnophilosophie a servi aux philosophes africains à s'exclure les uns les autres. Je me souviens que, étant jeune étudiant au Cameroun, étudiant de Marcien Towa, j'étais l'un de ses étudiants, il nous était formellement interdit de citer le père Hebga, qui, lui, faisait partie des ethnophilosophes. Donc, Ntonji parle de l'idéologie. Lui-même, avec sa définition de l'ethnophilosophie, ils ont prêté un flanc à une idéologie de séparation, à une idéologie d'exclusion. Merci.
Ce qui d'ailleurs est sans doute impliqué dans la notion même de philosophie d'Afrique, comme s'il y avait une unique philosophie africaine, ce qui ne signifie rien. On ne parle pas de philosophie européenne. Nadia Yala Kisukidi, vous êtes maîtresse de conférences en philosophie à l'Université Paris 8. Vous avez notamment travaillé sur Bergson. Alors votre voisin Jean-Godefroy Bidima vient de le dire, l'importance du vitalisme dans la philosophie bantou, c'est sans doute un lien avec la pensée de Bergson. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser, à travailler aussi sur ce qu'on appelle, peut-être maladroitement, la philosophie africaine ou l'existence d'une philosophie africaine?
En fait, cette question, elle est assez importante et elle permettra, en fait, de voir ce qu'on veut faire précisément de cette expression philosophie africaine. Effectivement, faire de la philosophie, c'est poser des problèmes. Il y aurait quelque chose d'assez violent à considérer qu'on détermine nos problèmes directement en fonction de nos provenances, ou qu'on les signe, en fait. Mais justement, moi, je me suis engagée dans la philosophie avec un amour pour un certain nombre d'auteurs. Et il est vrai que dans ma conscience étudiante française, j'ai habité la philosophie en schizophrène. C'est-à-dire que dans le cursus qui m'était offert à l'université, dans mes classes préparatoires, je n'envisageais pas, en fait, que le canon philosophique pouvait introduire d'autres auteurs. Non pas parce qu'il n'y avait pas d'autres philosophes, mais parce que le canon dans lequel j'étais amenée à habiter, en fait, était un canon qui possédait aussi ses corps exclus et qui fabriquait de l'exclusion. Donc ça sont les grandes questions posées par Derrida déjà dans les années 70-80. Et à ce titre, habiter la philosophie en schizophrène, ça voulait dire qu'à l'intérieur de l'université, de l'institution, j'étudiais un corpus, et dans des espaces plutôt contre-institutionnels, j'ai commencé à lire et à m'engager en fait sur un ensemble d'auteurs. Et il est vrai que la réconciliation a eu lieu à un moment précis avec la rencontre ou philosophe aussi en faisant des rencontres humaines, des corps en fait. Et moi, la rencontre qui a été centrale, qui m'a permis d'opérer une réconciliation philosophique, c'est la rencontre de Souleymane Bachir Diagne, justement, qui lui a fait quelque chose qui a été extrêmement important, c'est travailler sur des circulations intellectuelles, et notamment sur la circulation de la pensée philosophique de Bergson dans plusieurs espaces asiatiques et africains. Et c'est de cette manière, en fait, que la question de la philosophie africaine est apparue comme problème, au sens où il s'agissait pour moi, en mobilisant ce terme, qu'on peut tout à fait critiquer, et que moi-même je critique, puisque je ne mobilise pas le terme africaine, mais il s'agissait avec ce terme, finalement, de commencer à introduire du dissensus critique à l'intérieur du canon philosophique tel qu'on me l'avait présenté et tel que j'ai pu l'habiter durant toutes mes études en France, en fait. Et donc, je l'utilise, ce terme, pour créer du dissensus, non pas pour tatouer des auteurs et dire « vous êtes africain parce que vous êtes en Afrique », mais pour créer du dissensus à l'intérieur d'un corpus philosophique qui est normé et qui me paraît être codé axiologiquement.
Mais est-ce que ce corpus philosophique codé et normé que nous étudions en Europe, à l'école et à l'université, est le même dans des pays sur le continent africain, par exemple? Alors la question se pose sur tous les continents, mais je vous le pose ici sur le continent africain. Ou est-ce qu'on étudie d'autres philosophes que ceux que nous étudions ici en France ? Yacouba Konaté.
Mais oui, bien sûr, bien entendu, et même on fait un effort. C'est pour ça que Bidima a raison lorsqu'il dit que la question de l'existence d'une philosophie a perdu son actualité. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est de nous étudier, si j'ose dire, les uns les autres. C'est-à-dire que c'est devenu une exigence, pour vraiment une exigence pédagogique et éthique pour chacun de nous, de revoir toutes les grandes thématiques et de les étayer, parce que moi, je crois que la philosophie a un certain rapport au texte, même si je redis que le texte peut être paratextuel, il peut être autre chose. Je pense qu'on introduit, et d'ailleurs avec Bachir Souleymane et quelques autres, on a élaboré un manuel interafricain de philosophie dont l'une des exigences c'est d'introduire dans les classes de première et terminale, parce que vous savez qu'on a fait cette bataille et on l'a gagnée. Je dis bataille parce que ça a été un peu du syndicalisme. En tout cas, en Côte d'Ivoire, on a mené cette bataille. Et maintenant, la philosophie est enseignée en classe de première et en classe de terminale. Et on introduit à l'intérieur de ce programme, de manière ordinaire, les auteurs qu'on appelle africains. Moi, j'ai aucun problème de me définir comme africain. Parce que même si je dis que je ne le suis pas, les autres me le prennent toujours pour tel.
Donc je, ce qui est souvent vécu comme un problème,
absolument,
justement.
Absolument. Et donc, c'est un effort qu'on fait. Et l'autre chose qui va avec, c'est que tout ce problème-là tourne autour de la signature. Les textes en question. Pourquoi on dirait que ce que les Bantous ont dit, c'est une pensée unanimiste d'ensemble? Mais parce que le moment où on récoltait cette parole, personne n'a récolté l'auteur qu'il a proféré devant lui. Et ce même problème se retrouve dans les arts plastiques, les arts, les sculptures. On a pillé les autels. Je pense que je n'abuse pas, mais Michel Léris a décrit tout ce processus-là dans l'Afrique fantôme. On est parti arracher des œuvres, parfois dans des conditions hyper violentes, avec parfois même le fusil pointé sur les populations. Et on amène ces œuvres sans avoir pris la précaution de dire d'où ça venait et qui était le sculpteur. C'est impossible de connaître ces auteurs. Donc on a désanonymé des œuvres qui sont maintenant déposées ici et qui posent pour le problème de leur retour pour pouvoir dire après, c'est de l'art traditionnel. Mais c'est des auteurs. Aujourd'hui, il y a tout un courant qui consiste à... Je trouve ça aussi un peu scabreux. Il y a tout un courant de chercheurs dont le travail consiste aujourd'hui à voir quelles sont les sculptures dont l'écriture se rapprocherait les unes des autres, qu'on pourrait référer à quelqu'un. Donc après avoir enlevé les auteurs, maintenant on en est à chercher, à inventer des auteurs. Donc c'est pour cela que tout ça, ça entre aujourd'hui dans la cagnotte du professeur de base et on les incite aussi à ne pas considérer que la philosophie se nourrit seulement des textes où il y a une grosse densité, une grosse fréquence de être, non-être, détermination sur détermination. On les encourage à comprendre qu'on peut philosopher à partir d'un texte de littérature. Un texte d'un auteur, un texte d'Amadou Kourouma, un texte de Sodi Laboutansi, on peut le lire et avec les arguments, la méthodologie philosophique, arriver à en faire un moment important de la pensée.
Un texte, une œuvre d'art, un écrit littéraire, mais aussi peut-être une chanson. Écoutez.
Sebe matafa
les chemins de la philosophie et Alpha Blondie. Nous sommes à l'UNESCO vendredi 16 novembre, il est 22h11. Comment philosopher en Afrique aujourd'hui? C'est la question de cette émission que nous sommes en train d'enregistrer avec mes trois invités en compagnie d'un public venu nombreux et tard, même si la nuit ne fait que commencer ici, la nuit de la philosophie. Je vous ai posé la question, Yacouba Konaté, de ce sur quoi nous pouvons philosopher, parce qu'on vous a demandé à chacun de venir avec un son que vous proposez, et vous avez vous-même écrit un livre sur Alpha Blondie. Est-ce que ça a un lien avec nos discussions ou est-ce que ça n'a rien à voir?
Ah, ça a un lien avec nos discussions, parce que moi, pour ne pas être taxé d'ethnophilosophe, j'ai fait ma thèse sur Adorno. Et vous savez ce que tout le bien qu'Adorno dit du jazz et des formes d'art qu'il appelle de masse. Il les rejette comme étant des sources d'abêtissement par troupeau. Et moi, je me sentais pas très à l'aise avec cette manière de parler parce que la musique d'Alpha Blondie, qui commençait à émerger, m'interpellait d'autant plus que c'est des paroles très poétiques. Il se définit, par exemple, il connaît pas son père, comme ça arrive souvent ou parfois. Et il se définit comme fils de soldat inconnu. Un jour, je lui pose la question, d'où te vient ton inspiration? Il me dit, tu sais, moi, je n'ai pas de problème d'inspiration. Quand je dors, je prends ma conscience, je la dépose dans la rue. Le matin, à mon réveil, je récupère mon cerveau, je presse, et ce qui en sort, ce sont mes chansons. Je trouve ça fabuleux. C'est un peu schizophrène, mais je trouve ça fabuleux. Alors, donc, à partir de ce moment, je me suis dit, ma deuxième thèse porte sur les questions d'identité. Je me suis dit, j'ai un cas pratique qui va me permettre d'appliquer le peu que j'ai appris sur les théories de l'identité pour voir qu'est-ce que ça donne appliqué à un garçon. En somme, je dis un garçon, on a le même âge, Alpha Blondie et moi. Et ce qui m'apparaissait aussi, ce que on considère dans le milieu des arts vivants et de la musique, que James Brown fut le premier noir à être une vedette mondiale. Et Bob Marley est le premier noir à être une vedette du tiers-monde. Mais Alpha Blondie, moi je pense que c'est le premier artiste à ouvrir les stades de football à la musique et à avoir des spectacles de 40-50 000 personnes et à créer l'émeute partout où il allait, à devenir vraiment une méga star. Et en plus, ce qui me paraissait également important, vous connaissez toute la prégnance des questions d'identité dans le débat qu'on est en train de mener. On parle d'identité africaine. Lui, ce qu'il dit, c'est que ça ne sert pas à grand chose de chercher seulement les identités dans les racines, de sous nous, de creuser dans le sol. Il faut aussi s'élargir dans l'espace. Il faut aller en Jamaïque. Et il va en Jamaïque, il a une chanson qui s'appelle Africa. Il dit, je suis allé en Jamaïque, je regarde à gauche, ce sont des Wolofs, je regarde à droite, ce sont des Yoruba, etc., etc., pour dire. Et puis, le refrain dit, la Jamaïque, c'est l'Afrique, et l'Afrique, c'est la Jamaïque. Donc, pour moi, c'est une manière de problématiser de manière très légère et très populaire des questions que, généralement, on considère très graves et pour lesquelles on fait des traités qu'on lit avec plus ou moins de souffrance.
Jean-Godefroy Bidima, vous avez aussi plusieurs casquettes, puisque vous avez beaucoup écrit sur alors, la philosophie africaine, la philosophie négro-africaine, l'art négro-africain, la palabre, la juridiction de la parole, mais vous avez fait votre thèse, notamment, sur la catégorie de possibilité dans la théorie critique face à la modernité non-européenne. Autrement dit, vous êtes inspiré aussi de l'école de Francfort. Et votre voisin vient de parler d'Adorno. Vous avez cela en commun. Est-ce que pour vous, ce sont là encore deux choses différentes ou est-ce que finalement, cette formation-là, cet intérêt pour l'école de Francfort et la théorie critique de l'école de Francfort vous permet de mettre en résonance votre travail sur la philosophie africaine par ailleurs?
Je ne pense pas que ce soit la théorie critique de l'école de Francfort qui me guide. Je crois plutôt que c'est ce concept assez important qui est la notion d'expérience. Et quand on prend la langue allemande, l'expérience, c'est Erfahrung. Et Erfahrung vient de Fahren, qui est lui-même mouvement de voyage. Et c'est cette expérience qui, plus ou moins, préforme ma façon de philosopher. Adorno et l'école de Francfort n'ont été qu'un moyen pour pouvoir mettre ça en forme. Sinon, ce qui vient avant, c'est l'expérience. Et dans cette expérience, j'essaie, quant à moi, de philosopher en tenant compte justement de ce que j'appelle l'actualité. J'ai écrit un petit livre sur la palabre, une juridiction de la parole. Je l'ai écrit après le génocide du Rwanda. La palabre, c'est quoi? C'est en fait la manière dont les personnes essayent de mettre en sens les paroles afin que le consensus soit fortifié dans une société. Ça ne veut pas dire que durant les palabres, il n'y a pas altercation. Ça ne veut pas dire que dans les palabres, il n'y a pas dissensus. Mais tout cela vise une chose qui s'appelle la paix. Et là, nous avons une réflexion philosophique qui s'inscrit en faux contre la grande hantise de l'Occident, des philosophies occidentales. Les philosophies occidentales sont ivres de la notion de vérité. Que vaut une vérité si elle n'apporte pas la paix, par exemple? Donc, dans la palabre, la finalité est la paix. Et on utilise la vérité pour avoir la paix. Alors que dans les philosophies, la plupart des philosophies occidentales, on veut avoir la vérité. D'ailleurs, au tribunal, on dit, nous voulons avoir la vérité sur ce qui s'est passé. On ne dit pas, on veut avoir la paix sociale. La palabre a donc cette particularité, comme philosophie sociale, de viser la paix et de mettre la vérité au nom de la paix, et de mettre la vérité au service de la paix. Essayons d'imaginer une fiction. Après le génocide au Rwanda, prenons un Rwandais alpha qui a perdu sa femme et il se retrouve en Tanzanie à côté avec ses enfants, ses trois enfants. Essayons de bâtir une fiction. Et ces trois enfants, le Rwandais arrive à avoir un visa pour aller en Belgique. Il va en Belgique, il a perdu sa femme, il a vécu des horreurs, ses enfants sont en Tanzanie. Et puis, il voudrait que les enfants viennent le rejoindre en Belgique. On fait des tests ADN pour voir si c'est vraiment, ce sont ses enfants, les services d'immigration. Le premier enfant, ça coïncide, est de lui. Le deuxième est de lui. Le troisième, on dit non, il n'est pas de lui. On a cherché la vérité. Cette famille qui avait déjà le drame du génocide, le drame du déracinement, le drame de l'immigration, les angoisses devant les polices du monde, cette famille se retrouve encore devant une autre vérité qui aurait pu être cachée si on avait cherché la paix. Donc, est-ce que cette famille nécessitait réellement cette vérité-là à ce moment précis? Je conclus en disant que la vérité est moins essentielle que la paix, mais les philosophies occidentales sont ivres de vérité, sauf peut-être Nietzsche qui a critiquer les philosophes, n'est-ce pas, au nom d'autres valeurs que la vérité. Donc, alors, j'ai écrit la palabre pour mettre en exergue la paix et pour que les vérités soient au service de la paix. Première chose sur l'expérience, la palabre. La deuxième, j'ai écrit sur ce sont les pufs qui m'ont imposé le titre l'art négro-africain. J'aurais pu écrire les arts négro-africains. Alors qu'est-ce que la thèse fondamentale de ce petit livre, c'est quoi? C'est que en général, quand l'historiographie occidentale et même africaine parle des arts africains, on suppose que ces arts-là se réfèrent directement aux tribus, aux ethnies. L'art malinké, l'art congo, l'art yoruba, l'art tchokwe. Bien sûr, on efface les auteurs. On peut encore dire oui, mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'écriture, ainsi de suite. C'est pas grave. Mais dans ces arts attribués aux sociétés, tout se passe comme si les composantes de ces sociétés étaient unanimes. Comme si c'était des sociétés qui ne connaissaient pas la contradiction, la critique et l'autocritique. J'écris donc ce petit que sais-je pour dire que ce qu'on considère comme les arts africains, ce n'est pas tout l'art africain. On n'a pas encore fait un effort pour chercher l'art des sociétés africaines traditionnelles qui ont été exclues des sociétés traditionnelles, l'art des exclus de ces sociétés-là, l'art des fous et des marginaux de ces sociétés, l'art qui faisait la critique justement de la société traditionnelle. On n'a pas encore cherché des voies vers cet art-là. Et puis finalement, le petit ouvrage sur la philosophie négro-africaine, je partais d'une chose, c'est que on avait trop théorisé sur qu'est-ce que c'est que la philosophie africaine. Les anglophones, Wiredu, Oruka, au Kenya, Wiredu au Ghana, ils ont donné pas mal de définitions, il y a eu beaucoup de critiques. Mais ce qui m'importe, moi, aujourd'hui, c'est la question de la traversée. Où va-t-on? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que l'important est d'où tu viens ou là où tu vas, ou bien c'est l'entre-deux. Et cette interrogation me vient à partir d'une lecture du tableau de Théodore Géricault, le radeau de la Méduse. Dans ce radeau, où les gens sont sur le point, ils ne savent pas s'ils vont survivre ou bien s'ils seront morts, ce qui est important, ce n'est pas le but, là où ils vont, c'est pas d'où ils viennent, c'est justement le petit mouvement de la traversée. Parce que si on réussit la traversée, on sauve de par le fait même la provenance et on sauve l'origine. Or, la traversée africaine aujourd'hui, c'est quoi? D'abord, une injustice sur le plan international du point de vue des échanges. C'est ça la traversée africaine. La traversée africaine, c'est quoi? C'est les Chinois qui achètent nos terres. La traversée africaine aujourd'hui, c'est quoi? C'est une élite cupide. La traversée africaine aujourd'hui, c'est quoi? C'est une jeunesse avide de futur et avide d'avenir. C'est ça la traversée africaine. Et donc, c'est la question de la traversée qui m'intéresse et non pas des questions de définition, certes intéressantes, mais à mon avis, secondaires. Voilà.
Vous insistez sur la question de la vérité, même si celle-ci, évidemment, elle est très chère aux philosophes dits européens, mais elle est remise en question depuis le début de l'histoire de la philosophie aussi. Hein. C'est l'opposition entre les sophistes et Platon, c'est bien ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vérité, il y en a peut-être plusieurs, et que c'est pas ça le but de la philosophie. Mais c'est vrai qu'on s'empare de la vérité comme étant soi-disant le but de la philosophie, alors que bien souvent, la conclusion nous amène à l'inverse, qu'il n'y a pas une seule vérité. Vous insistez aussi sur la notion de paix, avec cette dimension de palabre. Et vous avez parlé de justice et d'injustice. Au fond, ce sont des problématiques, et je me tourne vers vous, Nadia Yalakisoukidi, qui remettent en question une forme d'universalisme en réalité, parce que ce sont des questions qui sont soulevées par la situation historique aussi des pays africains dont nous parlons, qui est le post-colonialisme et qui n'a pas encore fait son deuil d'une certaine période, qui marque profondément, y compris aussi aujourd'hui, le paysage intellectuel de ce continent.
Paysage intellectuel de ce continent.
Enfin, entre autres, hein, je dis intellectuel parce que c'est le sujet qui nous intéresse, mais également aussi économique, comme disait Jean-Claude Frabidina.
Ça m'a amené peut-être à faire plusieurs précisions à l'intérieur du débat auquel j'ai été conviée. Donc c'est vrai que philosophie africaine, là aussi, de fait, je suis obligée de préciser ma situation d'énonciation, puisque je ne vis pas en Afrique. Je ne suis pas née en Afrique. Je lis des auteurs africains comme je lis des auteurs latino-américains, asiatiques et européens pour résoudre un ensemble de problèmes. Mais par contre, comment je suis venue à cette question? C'est en déplaçant le mot africain, non pas pour poser une définition de la philosophie africaine, et en ce sens, je rejoins mais entièrement les propos de Jean-Godefroy Bidima. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont plutôt justement les traversées, pour reprendre encore un terme de Jean-Godefroy Bidima, mais c'est-à-dire les traversées diasporiques. Et comment, finalement, d'une certaine manière, elles ont été marquées par ces expériences de l'injustice, et comment ces expériences de l'injustice, ou à un moment, produit des problèmes communs, et ont produit, là aussi, des objets théoriques. Et il est vrai que je reprends beaucoup une thématisation de la philosophie comme philosophie dite africana. Moi, je la reprends à Lewis Gordon, qui est un penseur aussi jamaïcain, américain, etc., qui a traversé un peu, là aussi, toutes les frontières possibles pour essayer de concevoir un espèce de continent théorique où l'Afrique est en dehors de l'Afrique et elle est tellement en dehors d'elle-même qu'elle s'est transformée en étant en dehors d'elle-même dans un ensemble de projets. Et le terme africana, il a quelque chose d'assez fort, en fait, au sens où il ne définit pas un être. Il ne définit pas un donné, mais il définit un projet intellectuel, c'est-à-dire une visée dans laquelle on peut se reconnaître ou ne pas se reconnaître. Et cette visée, en général, elle prend en charge un ensemble de questionnements liés, je paraphrase Lewis Gordon, liés à l'anthropologie philosophique. Quels sont ces actes qui posent ou qui font qu'un individu se dit ou n'est pas dit comme humain? En quoi la question de la récusation de l'humanité fait-elle problème? Encore une autre question, quels sont ces processus par lesquels nous nous libérons, comment penser finalement des formes d'émancipation quand on a été confronté aux questions, je ne sais pas moi, de l'esclavage, des colonisations, et peut-être, là c'est un terme que j'assume, de néocolonialisme ou de certaines formes de colonialité présentes. Et enfin, toujours la question qui est difficile à entendre en France, parce qu'il faut extrêmement la poser avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de nuances, et ce n'est pas une ontologie quand on la mobilise, mais les questions dites de racisme et les questions dites raciales, en fait. Et comment, en fait, à l'intérieur de ce projet africana, un ensemble d'auteurs, allant de Fanon, peut-être, à Césaire, Cheikh Anta Diop, Toni Morrison, Maya Angelou, etc., comment ils ont pu, à un moment, prendre en charge toutes ces réflexions, en fait, qui traversent leurs œuvres. Alors, évidemment...
Africana, c'est la diaspora.
Oui, c'est l'idée, finalement, que quelque chose de l'Afrique circule nécessairement en dehors de l'Afrique. Et vu mon positionnement à la fois subjectif et le processus d'identification qui est le mien, vu aussi, en tant qu'intellectuel, les problèmes que j'étais amenée à rencontrer, il est vrai qu'un ensemble d'auteurs peuvent entrer sous ce qui est une labellisation rétrospective, puisque c'est pas Césaire qui a dit « je suis un philosophe africanin », ni même peut-être, je ne sais pas, Maya Angelou, etc. Mais c'est ce projet intellectuel-là qui m'intéresse, en fait. Et juste un dernier point, parce qu'il est assez... il suscite beaucoup la controverse, en fait. Mais là, je pense qu'on peut avoir un débat. Il n'est peut-être pas serein parce qu'on travaille sur des objets critiques. Et dès qu'on travaille sur des objets critiques, on ne peut pas recevoir de la bienveillance, je crois. Sinon, on n'est plus dans la critique. Je sais pas, une discussion de salon, éventuellement. Mais il est vrai qu'un ensemble de termes circule actuellement. Ça peut être dans certains espaces de l'université. L'université française n'est pas envahie par ces questionnements, en fait. Et ça peut être aussi peut-être dans le débat public qui a tendance un peu à ressaisir les choses de manière très polémique et pas toujours très rigoureuse. Mais en tout cas, dans le champ des études postcoloniales, décoloniales et même africanas, puisque la question de l'injustice est présente, il y va aussi du statut de notre manière de penser l'histoire et de concevoir les temporalités et de concevoir d'une certaine manière la pertinence ou non de certains types de continuité. Et il est vrai que quand il y va du champ des postcolonial studies ou de ce qu'on a appelé le tournant décolonial, sur lequel je pourrais revenir plus tard si vous voulez, bien la question se pose de savoir: que se passe-t-il après le colonialisme? Que demeure-t-il finalement du colonialisme dans nos contemporanéités, dans notre temps présent? Et les auteurs dits postcoloniaux, comme les auteurs décoloniaux, comme certains auteurs des pensées africanas, voire africaines contemporaines, ont pris en charge la question de ces temporalités, soit interrompues, soit ininterrompues, qui permettent de repenser la question de la justice, certes sur le continent africain, mais aussi dans les espaces où vivent et se déploient les diasporas africaines aujourd'hui.
Sur cette question du postcolonialisme Yacoumba Konaté, là, on retrouve ce prisme de l'identité dont vous parliez, qui finalement va peut-être marquer les revendications de l'art postcolonial.
Oui, mais au-delà, parce que moi, je pense que pour définir cela, il faudrait revoir toute la périodisation, parce que dans le champ de l'art, des arts visuels en tout cas, le terme de postcolonial n'est pas aussi efficace, n'est pas aussi... utilisé que celui du contemporain. Mais je pense qu'il y a des choses à voir, il y a des concordances.
Oui, on parle d'art contemporain, absolument, et pas d'art postcolonial.
Voilà. Mais c'est vrai que, au plan de l'analyse, en cela que s'intéresser aux arts en tant que philosophe, ça peut être pertinent. Au plan de l'analyse, on se rend compte qu'il y a une sorte de contemporanéité dans le temps entre la notion d'art contemporain et les débats postcoloniaux. Et pour moi, c'est la question de les arts permettent de définir différemment la question du postcolonial. Mon ami Bachir renvoie par exemple à l'échéance de Bandung. Il pense qu'à partir de ce moment, quelque chose qu'on peut appeler le postcolonial a commencé à se mettre en route. Mais du point de vue de l'étude que moi j'ai faite sur les arts visuels, je pense que c'est plutôt autour des années 90 que cette question est à penser. S'il y avait une périodisation, une période indiquée, je dirais, pour deux raisons. Parce que premièrement, c'est le moment où se mettent en place ces grosses machines qui sont les biennales, un peu partout, pour essayer de mettre en avant un nouveau rapport à l'art, de créer de nouveaux objets. Et puis, les biennales sont des lieux où l'art qui se montre doit être démonstratif. Moi, je les compare souvent à des fashion shows, parce que souvent, ce qui se présente, c'est pas fait comme le tableau qu'on prend pour venir mettre quelque part, on regarde. Ça montre jusqu'où peut aller la créativité. Donc, tu as toutes ces machines qui se mettent en place. À un moment, vraiment, si on voit les dates, la Biennale de Dakar, la première édition, c'est 92. Massa Abidjan, c'est 93. La Biennale de Johannesburg, c'est 95. Mais moi, je pense qu'il faut penser ce gros mouvement-là avec deux autres. Premièrement, la sortie de Mandela en prison et les premières élections, et qui sur le cas de l'Afrique du Sud, je pense que c'est intéressant. Je suis surpris d'ailleurs qu'on n'utilise pas davantage le texte que Jacques Derrida a écrit sur la question, là où il définit l'apartheid comme étant le dernier des colonialismes. Le dernier au sens où c'est le dernier de la classe le dernier des colons, c'est-à-dire c'est le pire des colonialismes, mais c'est le dernier parce que c'était aussi le plus pourri. Au moment où tout le monde a libéré ses anciens esclaves, eux, ils continuaient à garder les leurs. Alors donc cette date est intéressante, mais là où c'est intéressant, et là-dessus la référence que Bidima faisait au Rwanda est intéressante, 1994 c'est aussi le Rwanda. Donc pensez ensemble cette période de grande espérance amenée par Mandela et comprendre qu'en même temps c'est la saison des machettes qui commence. Tout ça, quand on regarde les œuvres des artistes contemporains, on voit comment ils sont tendus entre cette grande espérance et puis maintenant cette conscience du désastre qui est toujours latent, toujours possible.
Alors ça c'est dans le domaine de l'art, mais dans le domaine même de la philosophie, Jean-Godefroy Bidima, cette question-là, elle se pose en termes sans doute de dénonciation et de réparation, en réalité.
Oui, je dirais pas dénonciation et réparation, je dirais critique et clairvoyance. Parce que quand on répare, c'est que c'est un peu, on est comme si on était dans un rapport commercial en disant, vous avez fait ça, eh bien j'ai réparé, j'ai donné de l'argent et ça va. Non, je pense que nous sommes dans un rapport de critique et de clairvoyance. Critique d'abord parce que, en général, nous les postcoloniaux, nous critiquons justement l'Occident pour tout ce que l'Occident a fait et fait encore. Mais il manque une dimension qui est la dimension de l'autocritique, qui manque terriblement chez nous. Essayons de voir la violence, parce que nous sommes dans une cour ici avec des gens bien élevés, mais il faut lire les textes de philosophie des Africains, comment ils se traitent les uns les autres.
C'est très violent.
C'est d'une violence terrible. C'est souvent très violent. Donc la critique ne consiste pas uniquement à pointer du doigt l'autre, mais aussi à faire l'autocritique. Mais
pardonnez-moi, quel type de violence? La violence ad hominem, enfin.
Ad hominem, ça arrive parfois.
D'accord.
Ça arrive parfois. Je pourrais donner un exemple précis. Au Cameroun, il y a eu un débat entre un philosophe qui s'appelait Martin Towa et un autre qui s'appelait Basile Fouda.
C'était, on n'est pas les citer.
Et quelque chose de violent, extrêmement violent. Donc, ce que je voudrais dire, tout simplement, c'est que ce n'est pas parce qu'on est du côté qui a été colonisé que automatiquement on est sauvé, automatiquement on est bien. Mais il faut faire une critique allant de la critique de la colonisation vers l'autocritique. Je vais être plus explicite à partir avec la post-colonie. Tous les partisans, les théoriciens de la post-colonie, pourquoi ils ne font pas la critique de l'économie politique de leur discours? Qui finance ces discours-là? Pourquoi un tel type de thématique passe pour avoir des bourses, pour avoir les fundings? Donc, il est très bien, très beau de dire, oui, nous critiquons, nous sommes post-coloniaux, nous critiquons l'Occident, nous critiquons tout, mais il faut faire la critique de l'économie politique qui nous met en scène quand nous parlons. Et ça, c'est une vieille pratique. On prend les nègres, on les met en scène, et ceux qui dirigent, n'est-ce pas, tournent les boutons derrière. Il en est de même comme ça aux États-Unis. Je vis aux États-Unis pour pouvoir avoir un financement pour faire tel et tel et tel type de recherche, on va te dire non, ça ne nous intéresse pas. Donc, on va guider notre manière d'assumer la post-colonialité. Donc, premier moment, le moment de la critique. Donc, pas de la revendication, mais la critique. Critique à double sens. Deuxième moment, la clairvoyance. La clairvoyance. La prudence. Même quand on critique, même quand on accepte les autres, on dit « ah oui, l'altérité, la tolérance, tous ces grands mots-là qui peuplent les amphis ». Mais il faut beaucoup de clairvoyance parce que, comme le disait Marcuse, s'agissant de la tolérance, il y a une espèce de tolérance répressive. N'est-ce pas? On vous dit « oui, tu fais ce que tu veux, en démocratie, tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux, mais qu'on ne se gêne pas ». Mais on n'entre pas en co-production du discours, on n'entre pas en collaboration. Donc, critique et clairvoyance, pas revendication et paiement. Il faut sortir du paradigme du paiement et du paradigme de l'argent.
Vous prenez, pour parler des post-colonies, l'image d'un escargot sans sa coquille, hein, qui sont dans cet état à la fois de vigilance et d'inadaptation aux nouvelles menaces.
Voilà, c'est l'image que donne Horkheimer.
Voilà, exactement. En théorie, on retrouve l'école critique. Je vous ai vu lever la main, Nadia Yalak,
oui,
qui dit comment en classe.
Je voulais réagir.
Je donne la parole.
C'était un peu outré, par moment aussi, cette critique. Il me semble, peut-être, ça engage un débat, les post-coloniaux, mais je voudrais dire deux choses, en fait. C'est sur la question de la critique et de l'autocritique, il y a aussi, puisque c'est un hommage à la pensée, africaine, contemporaine. Il y a aussi eu, je pense, un livre qui est pour moi une des grandes contributions à la pensée contemporaine et dont je parle avec beaucoup de tristesse puisque la personne qui l'a écrite est morte il y a peu, en fait. Il s'agit de La crise du Muntu de Fabien Ebussi-Boulaga. Et ce livre, donc, écrit en 77, un livre extraordinaire qui revient, je crois, sur les politiques de la philosophie et précisément un ouvrage qui essaie de proposer une lecture du débat sur la philosophie africaine avec lequel on a commencé avec Paulin Otunji, non pas en essayant de répondre en disant oui, il y a une philosophie africaine, non, il n'y a pas de philosophie africaine, mais en opérant une lecture symptomale, presque comme dirait Althusser, c'est-à-dire qu'est-ce que ce débat, dans ses non-dits, dans ses silences, nous dit ? Pourquoi y a-t-il eu ce type de revendication ? Et la réponse, je crois, magistrale que fait Fabien Ebussi-Boulaga, c'est le troisième chapitre de son ouvrage, où il produit une réflexion critique serrée sur la notion de tradition. Puisque, effectivement, certains disent, non, la philosophie ne peut être qu'occidentale, donc nous ne pouvons pas l'intégrer. Ou d'autres vont dire, non, elle a toujours déjà été africaine, et c'est précisément cette philosophie, la nôtre, en défendant des positionnements nativistes, qui va être promu. Or, Boulaga nous dit ni mimétisme, ni nativisme, pensons la question de la tradition. Et penser la question de la tradition, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire son autocritique. Ça veut déjà dire une tradition, ce n'est pas un donné, c'est une histoire. Cette histoire intègre tout, aussi le moment colonial qui est désormais le nôtre, en fait. Cette histoire implique aussi que nous revenions sur ce que nous avons été, sur ce que nous avons fait, de manière très direct, ce qui s'est passé pendant l'esclavage, ce qui s'est passé pendant la colonisation. On parlait tout à l'heure justement de ces bourgeoisies, de ces élites cupides en fait, qui sont des élites noires qu'a critiqué Fanon. Boulaga parle aussi finalement de cette manière qu'on doit avoir de critiquer les élites politiques. Et ensuite, penser la tradition, pourquoi ? Pour la penser dans un geste utopique d'ouverture et de création, en fait. Et tout ce travail de réflexion sur la tradition ne peut se faire que si on engage une autocritique. La tradition n'est pas un donné, elle est un devenir, toujours à faire. Donc ça, c'était le premier point, parce qu'on est dans une réflexion très très forte, qui récuse, là aussi, l'idée toujours du mimétisme, le philosophe africain, celui qui répète la tradition des Occidentaux, ou le positionnement nativiste, qui a été un peu celui de l'ethnophilosophie, à savoir, nous sommes toujours déjà africains et nous possédons la philosophie en nous de manière innée, en fait. Et faire de la bonne philosophie africaine, c'est revenir à ses bonnes traditions sans apport extérieur. Et le dernier point, je serai très très brève, c'est vrai qu'il y a une manière peut-être parfois de délégitimer certains courants des post-colonial studies en disant, bon ben voilà, nous avons ici un ensemble d'intellectuels un peu compréhadors qui vivent tranquillement dans les facultés américaines ou autres, mais il y a un ensemble d'intellectuels qui ont l'honnêteté de réfléchir sur les conditions dans lesquelles ils produisent leur travail, dans lesquelles ils produisent de la théorie. Si on reprend là aussi un des très grands livres du champ des post-colonial studies, je pense, à provincialiser l'Europe de Dipesh Chakrabarty, tout le premier moment qui ouvre ce livre est une réflexion sur les conditions d'énonciation de la théorie de l'intellectuel post-colonial. Donc on peut critiquer, mais tous les auteurs ne sont pas dans un mensonge constant vis-à-vis de la manière qu'ils ont des conditions matérielles dans lesquelles ils produisent de la théorie.
Est-ce que vous voulez dire un tout dernier mot ? Yacouba Konaté ou Jean-Gaufre Abidima ? Enfin, Jean-Gaufre Abidima.
Sur quoi ? Sur l'ensemble. Je finirai en disant la chose suivante, c'est que nous vivons aujourd'hui dans un monde assez curieux, avec une prolifération des récits, une prolifération des stratégies, et même dans la manière de philosopher, c'est toujours des stratégies. Et puis aussi, à l'intérieur de ces stratégies, on trouve des tactiques, n'est-ce pas, des gens qui essaient d'ouvrir. Alors, s'agissant de ce qu'on appelle philosophe africain ou philosophie africaine, je commencerai d'abord en disant que... Je finirai en disant oui. Que la question... Je finirai en disant que...
On peut recommencer après, mais là, il faut finir.
Je finirai en disant que... D'abord, il y a un grand problème qui nous concerne aujourd'hui, le problème de l'identité. Yacouba l'a dit, ce problème n'a pas été réglé. Deuxième problème, c'est le rapport aux autres. Comment dit-on les autres et comment les autres nous voient ? Donc, le rapport d'altérité. Et le quatrième moment, c'est le rapport aux institutions, les institutions du savoir, les institutions du pouvoir, les institutions économiques. Donc, ces trois moments, identité, altérité et institution, c'est ça, à peu près, de mon point de vue, le programme qui unit toutes les voies de la philosophie dite africaine.
Eh bien, merci d'avoir pris ce mot de la fin, car j'avais dit que je vous avais demandé à chacun de venir avec un son. On n'a pas su ce que vous aviez apporté, donc vous avez apporté le mot de la fin, en fait, Jean-Coffroy Bidema, merci. On se quitte avec une suggestion de votre part, Nadia Yala Kisukidi, c'est une chanson de Nina Simone que je vous propose d'écouter. Vous nous direz pourquoi celle-ci.
Flow, 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 mela, flow, 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 mela. Flow, 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 mela, flow, 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 mela. Flow, 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 mela, flow, 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 mela.
Continuez à l'écouter. Dites-nous, Nadia Yala, qu'est-ce que tu dis ? Pourquoi cette chanson en particulier, rapidement ?
Parce que justement, je pense que c'est une figure, pour reprendre un terme de Jean-Gaudroy Bidima, de la traversée. Et ce morceau, je crois, date du début des années 60. Donc, au tout début de sa carrière, Nina Simone, qui a une immense technique de pianiste classique, puisqu'elle s'est formée pour être une grande concertiste, et malheureusement, cette carrière n'a pas pu aboutir. Et donc, dès ses débuts de concertiste dans les petits cabarets, elle va d'emblée assumer, nourrie de sa culture classique, de son amour pour le répertoire classique occidental, de Bach, etc., en passant par d'autres, elle va aussi y intégrer Caraïbes, Afrique et toutes ses rythmiques. Et ça, c'est un peu le personnage merveilleux musicalement, cette personnalité musicale qu'est Nina Simone.
Eh bien, on va l'écouter avec vous. Merci à vous, Nadia Yala Kisukidi. Merci à vous, Jean-Gaudroy Bidima. Et merci à vous, Yacouba Konaté, d'avoir participé à cette discussion ce soir, enregistrée à l'UNESCO. Il est 22h43. Et la salle est toujours pleine de centaines, que dis-je, de milliers de personnes. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Et merci à Georges Clès qui a assuré la lecture d'ouverture devant vous. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo d'Anastasia Colosimo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Anastasia.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui paraît le dernier numéro de la revue Tumulte, dirigé par Camille Louis et Étienne Tassin, qui nous a quittés cette année. Pour parler de ce dernier numéro, nous avons donc joint Camille Louis, dramaturge, doctorante et enseignante à l'Université Paris 8. Bonjour Camille Louis.
Bonjour.
Alors d'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la revue Tumulte ?
Alors c'est une revue qui existe depuis plusieurs années. Chaque numéro est un petit peu singulier. Je précise juste par rapport à la manière où vous m'avez présenté que je suis docteur et pas doctorante.
Ah, formidable. Félicitations.
Merci, ça fait un petit temps justement. Étienne était mon directeur de thèse en partie, donc c'est Étienne Tassin, un monsieur qui a beaucoup compté dans tout mon parcours. Et ce numéro de la revue Tumulte, lui, en a fait plusieurs durant son existence. Et là, c'était ce dernier numéro qu'on coordonnait ensemble en lien avec un ensemble d'activités que nous menions liées à ces questions justement des exils et des migrations qui nous tenaient à cœur et nous tenaient au travail depuis 2015. Donc on a été beaucoup tous les deux sur les terrains singuliers de ces situations, notamment beaucoup à Calais. Et au-delà de ça, ce qu'on souhaitait faire et qui est aussi, je crois, un petit peu le propre de cette revue Tumulte, c'était de réunir un ensemble d'interlocuteurs et de voix qui pouvaient parler depuis différents horizons, donc c'est-à-dire pas que des théoriciens travaillant sur cette question théorique et politique des migrants, mais véritablement des personnes qui ont un rapport plus direct avec cette situation, soit parce qu'elles le vivent, soit parce qu'elles en sont des actrices de l'hospitalité et de la solidarité. Donc on a véritablement créé un numéro polyphonique où on a un croisement entre des approches conceptuelles et des approches d'expérience sur ces problématiques-là.
Et cette double approche vous a permis de faire intervenir qui, par exemple ?
Alors on a donc dans ce numéro qui s'intitule « Cosmopolitique en exil, des Xénopolis à l'édification d'un monde commun », on a des auteurs comme Michel Agier, puisque c'est un anthropologue, un chercheur qu'on retrouve beaucoup sur ces questions d'émigration, Mais là, ce qu'il a décidé de faire et qui me semble très représentatif de la dynamique de ce numéro, c'est que lui a préféré se contenter d'introduire les poèmes, donc trois poèmes d'un auteur qui s'appelle Hassan Yassine. Donc il a donné la parole en priorité à cette personne plutôt que de parler à sa place, ce qui est plutôt très, très important. Donc il était très important pour nous, en tout cas, de mettre en valeur. Et je suis très heureuse que Michel Agier ait répondu ainsi. À la fois son introduction au texte est brillante et ensuite pouvoir avoir la parole d'Hassan Yassine est très précieuse. Donc on a des auteurs de ce type-là. Ensuite, d'un aspect plus théorique, on a des personnes comme Alain Maury, sociologue, Denis Pierret, Catherine Coquiot, qui est spécialiste de littérature. Et ensuite, on a des approches qui sont plus celles d'acteurs de terrain. Donc Regina Montanica, qui est aussi docteur, qui elle aussi a soutenu sa thèse avec Étienne, mais qui est aussi une personne qui a énormément œuvré dans des situations concrètes d'accueil, donc notamment donc en Grèce, à Lesbos et à Paros. On a une personne tout à fait différente qui est Milady Renoir, qui est une performeuse et poétesse résidant en Belgique et qui est aussi au croisement du poétique et du politique, parce qu'elle est très très investie dans toutes les actions de solidarité pour les personnes exilées en Belgique. Ensuite, on a un collectif d'auteurs qui s'appelle l'Archipel des Devenirs, qui sommes, puisque j'en fais partie, qui sommes tous des maintenant docteurs qui ont travaillé avec Étienne de manière très très proche. Et donc, on a voulu en fait avec ce collectif poursuivre une des propositions qu'avait faites Étienne, puisqu'Étienne, en parallèle d'être un grand spécialiste d'Hannah Arendt, était un grand utopiste. Donc, il écrivait régulièrement des petites histoires au croisement de la philosophie politique et de la fiction, et notamment cette dernière qui s'appelle Xénopolis, qui clôturait en fait l'abécédaire dans le dernier numéro de Tumulte autour des questions de démocratie radicale. Et Xénopolis, en fait, était un concept qu'on avait un petit peu forgé ensemble avec Étienne sur cette question de la ville, de l'étranger. Donc il imagine une petite fiction de ce que serait cette Xénopolis. Et avec le collectif de l'Archipel des Devenirs, on a poursuivi les différentes institutions fictionnelles et en même temps très réelles de cette Xénopolis possible. Donc ça donne un des articles du numéro. Et c'est pour nous très important aussi que de garder cette... de rendre visible en fait cet Étienne-là qu'on connaît peut-être... moins, c'est-à-dire l'Étienne utopiste. En effet, et on avait organisé l'an dernier avec cet archipel de devenir un grand colloque qui s'appelle TAMA, The Armeni Alternatives, et là, en novembre, aura lieu le TAMA 2, donc, qui prolonge et qui cette fois sera fait sans Étienne, mais qui prend comme thème principal ce thème-là de l'hospitalité.
Merci beaucoup Camille. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on peut trouver la revue Tumulte?
Alors, elle sera en librairie à partir du 21 novembre et sinon, elle est trouvable et accessible depuis le site des éditions Kiné, qui est donc l'éditeur de cette revue Tumulte.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Anastasia. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la Philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé à préparer cette émission. Colomba Grossi, Marie Simon, Isis Jourda, Sharon Oury, elles sont encore là. Hein. Anaïs Isbert, Nicolas Berger à la réalisation, à la technique et prise de son du côté de Radio France, Alexandre James et Marc Garvenès. Merci également à toute l'équipe de production, Myriam Corichi, Sandrine Bréchaud, Adrien Landivier, Grégory Doux, Yacine Abbas, John Crowley. Et merci aussi à Georges Clès qui lit les textes pour vous ici à l'UNESCO. On se retrouve demain pour la suite de notre nuit philosophique. Demain, nous parlerons de la philosophie en Amérique latine en compagnie de Miguel Giusti et Myriam Madureira. Ça, ce sera demain à 10h donc. Mais d'ici là, pour réécouter cette émission sur la philosophie en Afrique, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, rendez-vous également sur Twitter, Facebook et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc. Mais d'ici là... restez à l'écoute sur France Culture.